Donc je présente notre conférencier ce soir. Il s'agit de Gérard Mégy, qui est né en 1946, qui est physicien, actuellement président du Centre national de la recherche scientifique. Il est ancien élève de l'École polytechnique, docteur en sciences. Il a été attaché de recherche au CNRS, chargé de recherche au CNRS. À partir de 1988, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Il a été aussi directeur de recherche au CNRS. Et puis, il a été directeur adjoint, puis directeur du service d'aéronomie de 1985 à 2000, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences de l'environnement global 1994-2000. Et depuis 2000, il est président du Centre national de la recherche scientifique. Gérard Mégy est spécialiste notamment des équilibres physiques et chimiques de l'atmosphère terrestre et des questions environnementales au niveau international. Il est membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie internationale d'astronautique. Il a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Je signale des publications comme Ozone, l'équilibre rompu aux presses du CNRS en 1988, Stratosphère et couche d'ozone chez Masson en 1991. Et puis ceux qui connaissent l'Université de tous les savoirs 2000 savent qu'il a donné déjà une conférence sur ozone et qualité de l'air en l'an 2000. Donc je lui laisse la parole, selon l'usage, pour un peu moins d'une heure, hein, compte tenu des impératifs de diffusion radio et télévisée. Et puis ensuite, il répondra à vos questions. Merci.
Merci beaucoup, merci de votre introduction. Le thème de cette conférence sont les enjeux scientifiques des changements environnementaux. Alors je voudrais tout de suite préciser au début, c'est un thème qui évidemment peut apparaître très large pour deux raisons. La première, c'est que je resterai bien évidemment dans mon domaine de compétences. La seconde, c'est le temps qui m'est imparti pour parler de ces aspects. Et donc je me centrerai essentiellement sur les changements environnementaux au sens des changements globaux qui sont aujourd'hui apportés dans le fonctionnement de la Terre et induits principalement par les activités humaines. En ce qui concerne les enjeux scientifiques, j'essaierai de vous montrer que précisément l'étude, la compréhension, la prédiction de ces changements environnementaux implique en fait tous les domaines de la connaissance, depuis les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, mais en incluant aussi bien entendu les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences économiques. Alors je pense que nous avons de plus en plus la notion que notre Terre, d'abord, est petite, on s'y déplace maintenant extrêmement rapidement, qu'elle est aussi unique au sein du système solaire, en ce sens que la vie a pu s'y développer, elle s'y est développée parce qu'existaient les conditions propices, tant du point de vue de l'atmosphère terrestre que du point de vue en particulier de l'existence de l'eau à sa surface. Je crois que nous avons aussi, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, pris conscience de la fragilité des équilibres à la surface de la Terre qui permettent précisément l'existence de la vie et que quand on observe par exemple l'atmosphère terrestre vue par la tranche depuis une plateforme spatiale s'éloignant de notre planète, on a effectivement l'impression que cette atmosphère, et ce n'est pas seulement une impression, est une couche extrêmement superficielle puisqu'elle ne dépasse pas quelques dizaines de kilomètres. Et qu'en revanche, elle joue un rôle tout à fait fondamental qui apparaît d'ailleurs sur cette diapositive, ne serait-ce que par le jeu des couleurs, on s'imagine effectivement le rôle qu'elle peut jouer dans le filtrage du rayonnement solaire. Alors cette atmosphère terrestre, elle est faite, et là je ne vous apprends rien, d'un certain nombre de gaz, je vais passer assez rapidement là-dessus. Deux gaz principaux qui sont l'azote et l'oxygène, tout le monde le sait, 78%, 21%, un peu d'argon. Et donc on pourrait se dire, une fois qu'on a ces trois gaz, eh bien on a à peu près 99% du contenu de l'atmosphère terrestre. Donc le reste, bon, ça doit d'une certaine façon relever un petit peu d'études académiques, puisque l'essentiel de la masse, c'est de l'azote et de l'oxygène. Alors en fait, le fonctionnement de la planète tel qu'on le connaît maintenant depuis plusieurs décennies, a mis l'accent précisément sur le rôle d'autres constituants que l'azote, que l'oxygène, qui sont évidemment des constituants fondamentaux. La vapeur d'eau, je l'ai déjà dit, qui présente cette particularité sur la planète Terre d'exister sous les trois formes solides, liquides, et en particulier les océans, et bien entendu gazeuses. Et puis un certain nombre de constituants dont on parle de plus en plus, le gaz carbonique, le méthane, l'ozone, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures, qui, quand on regarde leur teneur relative dans l'atmosphère terrestre, correspondent en fait à des constituants très minoritaires. Les teneurs exprimées ici par le symbole ppm signifient partie par million, c'est-à-dire que la concentration de gaz carbonique est aujourd'hui de 360 millionièmes de la concentration totale. Celle d'ozone atteint simplement quelques millionièmes. Celle du méthane est de l'ordre de 2 millionièmes. Donc effectivement, on pourrait se dire en termes de masse, est-ce que ces constituants ont vraiment un rôle important dans l'atmosphère de la Terre? Alors la réponse est oui, et la réponse est oui parce qu'ils jouent un rôle déterminant dans l'équilibre énergétique qui a permis à la surface de la Terre de se maintenir avec, à une température compatible avec l'existence de l'eau liquide, l'existence de la vie. Ce rôle des constituants minoritaires, on le retrouve un petit peu des deux côtés de la balance énergétique de la planète Terre. L'essentiel de l'énergie nous vient bien entendu du Soleil, et ce rayonnement solaire, avant d'arriver à la surface terrestre, est filtré par un certain nombre de constituants, les majoritaires, l'azote, l'oxygène, mais aussi l'ozone. Et vous savez maintenant, depuis plusieurs années, le rôle fondamental que joue cette ozone très minoritaire dans le filtrage, en particulier du rayonnement ultraviolet. Si ce rayonnement ultraviolet arrivait à la surface de la Terre, il détruirait les molécules constitutives de la matière vivante. Donc déjà, de ce côté, on voit le rôle important d'un constituant minoritaire. Et puis, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'énergie qui est émise par la Terre une fois qu'elle est chauffée par le Soleil et qui se situe dans un autre domaine de longueur d'onde, qui est le domaine du rayonnement infrarouge, eh bien, ces constituants minoritaires vont jouer également un rôle fondamental dans le mécanisme qui est le mécanisme de l'effet de serre. Ce mécanisme de l'effet de serre, c'est d'abord un mécanisme naturel. C'est en fait le piégeage d'une certaine partie de l'énergie émise par la surface de la Terre, par ces gaz dans l'atmosphère, qui vont en réémettre à la fois vers l'espace, mais aussi vers la planète. Et sans cet apport d'énergie complémentaire lié à l'effet de serre naturel, la température à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés, c'est-à-dire que l'eau liquide n'existerait pas à la surface de la Terre, et par conséquent, la vie ne s'y serait pas développée et maintenue, du moins sous les formes que nous connaissons. Alors l'effet de serre naturel, il conduit à cette température moyenne aujourd'hui de plus 15 degrés à la surface de la Terre, et il est dû principalement à l'effet de deux constituants, la vapeur d'eau et le gaz carbonique, mais également de façon très partielle à d'autres constituants comme le méthane, les oxydes d'azote ou l'ozone. Donc l'effet de serre, c'est d'abord un phénomène naturel, c'est un phénomène tout à fait essentiel à l'apparition et au maintien de la vie sur la Terre. Et vous voyez là le couplage déjà entre ce bilan finalement énergétique de la planète et cette composition chimique de l'atmosphère. Par conséquent, la composition chimique de l'atmosphère est en quelque sorte liée, et je pense que c'est le point de départ, est liée à l'équilibre de la vie. Elle est liée par l'équilibre climatique, c'est l'effet de serre. Elle est liée par le filtrage du rayonnement solaire, c'est l'ozone stratosphérique. Et puis elle est liée aussi parce que dans l'atmosphère, il y a des composés oxydants, il y a des composés soufrés qui peuvent avoir des équilibres, des actions sur l'équilibre des écosystèmes, qui peuvent avoir des actions également sur la santé humaine. Et donc on voit à partir de là que toute perturbation, toute modification dans ces constituants minoritaires de l'atmosphère apportera et posera un certain nombre de problèmes environnementaux, soit par modification de l'équilibre climatique, soit en changeant le filtrage du rayonnement solaire, soit en modifiant ou en portant atteinte aux équilibres des écosystèmes ou à la santé humaine. Donc c'est en ce sens qu'on parle aujourd'hui effectivement de problèmes environnementaux. Et ces problèmes environnementaux ressortent du fait que la composition chimique de l'atmosphère, elle n'est pas déterminée une fois pour toutes, et on ne doit pas considérer l'atmosphère comme un réservoir qui serait isolé du reste de la planète Terre. En fait, ce réservoir est constamment en train d'échanger de la matière, en train d'échanger des gaz, en train d'échanger des constituants avec les autres compartiments de notre planète, les surfaces continentales, la végétation, la biosphère, les océans. Et donc, on a un flux naturel continu de ces constituants vers l'atmosphère de la Terre qui, ensuite, sous l'influence du rayonnement solaire, vont interagir et vont conduire à la composition chimique de l'atmosphère qu'on pourrait qualifier de naturel ou de pré-industriel, tel qu'on la connaissait au début du XXe siècle. Le problème aujourd'hui, bien entendu, c'est que aux émissions naturelles et au couplage finalement entre l'atmosphère, les surfaces continentales, la biosphère ou les océans, l'homme vient rajouter un certain nombre de sources qui peuvent être des sources additionnelles pour certains constituants, sources qui peuvent être des sources entièrement nouvelles de constituants qui n'existaient pas dans l'atmosphère de la Terre. Et par conséquent, de ce fait, il induit, bien entendu, une perturbation, et en gros, depuis à peu près 150 ou 200 ans, on s'est lancé dans une expérience en vraie grandeur qui est finalement de changer la composition chimique de l'atmosphère terrestre et puis ensuite de regarder comment ces changements vont finalement influer sur la plupart des grands équilibres et en particulier des équilibres de la vie. À partir de là, se sont dégagés au cours des 50 dernières années. C'est quelque chose qui, finalement, est apparu à la fin, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Un certain nombre de problèmes d'environnement, ceux liés par exemple à l'attaque de la couche d'ozone stratosphérique par les composés organohalogénés, tous les problèmes de pollution photo-oxydante liés aux émissions importantes d'oxyde d'azote, d'hydrocarbures, de particules dans les grandes agglomérations, et puis également le problème du changement climatique lié à l'émission dans l'atmosphère de quantités additionnelles de gaz à effet de serre, dont de gaz susceptibles de rajouter une composante à l'effet de serre naturel qui existait déjà à la surface de la Terre. Donc on est en fait depuis 50 ans face à cet ensemble de problèmes et du point de vue des scientifiques, il s'agit à la fois de comprendre les phénomènes qui peuvent éventuellement modifier les équilibres de l'atmosphère terrestre, essayer de prédire ce qui peut se passer. Et par conséquent, on est aussi, du point de vue de la science, dans un domaine relativement nouveau où finalement on est en train d'étudier un milieu qui lui-même se transforme sous l'action de l'activité humaine. Et on verra qu'il peut se transformer d'ailleurs plus rapidement qu'on arrive à le prédire. Alors il y a une chose qui est intéressante à regarder, c'est que bien entendu, des changements dans la composition chimique de l'atmosphère, il y en a déjà eu dans le passé, il y en a eu pour des raisons naturelles, liées à des émissions, liées au volcanisme, liées à des changements de température, de rayonnement sur la surface de la Terre. Et donc il est intéressant de regarder comment les changements actuels se positionnent finalement par rapport à ces grands changements qui ont pu se produire à l'échelle des temps géologiques. Et ça, on sait le faire aujourd'hui sur des périodes très longues. On sait le faire en étudiant les sédiments, marins, mais on sait le faire aussi avec une très grande précision sur la période du Quaternaire grâce à la technique des enregistrements glaciaires, c'est-à-dire par l'étude finalement des bulles d'air qui se forment lorsque la glace se forme à la surface des calottes et en particulier des calottes polaires, puis se tasse peu à peu en emprisonnant l'air et en portant ainsi le témoignage de la composition de l'atmosphère au moment où la glace se forme. Alors, ce sont des méthodes qui sont apparues depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années. Et donc l'idée d'extraire des carottes de plusieurs kilomètres de ces archives glaciaires dans les régions où précisément la glace est très épaisse, comme les régions antarctiques, nous fournit aujourd'hui des données extrêmement intéressantes sur les climats du passé. Donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Ce que je veux simplement montrer par là, c'est que quand on reconstitue la composition chimique de l'atmosphère à l'échelle des 500 000 dernières années, qu'on étudie par exemple, bien sûr, les gaz stables qui peuvent être contenus dans ces archives glaciaires, comme le gaz carbonique ou comme le méthane, on observe, et on le voit ici, quand on remonte de 500 000 ans jusqu'à la période actuelle, on observe effectivement des fluctuations dans cette composition qui sont parfaitement en phase, enfin du moins qui sont bien en phase, avec les grandes évolutions climatiques, et en particulier le passage de périodes glaciaires, comme ici, à des périodes interglaciaires, comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est important de regarder, et ce qui nous intéresse ici, c'est que quand on regarde la concentration du gaz carbonique, on s'aperçoit que jamais au cours des 400 000 dernières années, même si elle a fluctué, elle n'a dépassé une valeur de à peu près 280 parties par million. Jamais le méthane n'avait dépassé 0,8 parties par million, puisque ici on a divisé l'échelle par 1000. La perturbation qui est appliquée maintenant depuis 100 ans ou 150 ans, nous a amené à des niveaux qui sont clairement hors de la variabilité climatique des 500 000 dernières années, que ce soit pour le gaz carbonique, puisqu'on est aujourd'hui autour de 360 ppm, ou que ce soit pour le méthane, puisqu'on a plus que doublé la concentration du méthane. Et vous voyez tout de suite qu'une double difficulté se pose. Premièrement, on perturbe le système et on sort de la variabilité telle qu'on pouvait la connaître sur 500 000 ans. Et deuxièmement, on applique cette perturbation de façon beaucoup plus rapide que celle qu'on observait dans les cercles climatiques. Cycle climatique. Si on effectue effectivement un zoom pour regarder d'une façon un petit peu plus précise ce qui s'est passé sur les 40 000 dernières années, et en simplifiant, c'est-à-dire en regardant l'évolution globale, voilà les concentrations de gaz carbonique observées pendant la période glaciaire. Donc on voit qu'on est autour de 200 parties par million. On passe ici vers, en quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, on passe ici vers les concentrations observées dans la période interglaciaire autour de 280 parties par million, donc une variation d'à peu près 80 ppm. Et puis on passe brusquement en 150 ans d'une variation de même amplitude, mais évidemment avec une rapidité beaucoup plus grande. Et par conséquent, ces modifications-là nous montrent très clairement que les activités humaines aujourd'hui impactent et impactent de façon importante la composition chimique de l'atmosphère, dont on a vu précédemment le rôle dans le maintien déséquilibre climatique, déséquilibre du rayonnement à la surface de la Terre et partant de l'équilibre général qui conduit à la vie. Donc la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quel est l'impact de ces activités humaines et d'essayer de le quantifier pour essayer de regarder où sont les responsabilités et pour essayer surtout de prédire et de voir ce qu'il faut faire si on veut éviter d'aller vers des situations plus dramatiques. Alors plus dramatiques au sens de l'homme, c'est-à-dire au sens où effectivement on pourrait poser des problèmes quant à l'existence de la civilisation humaine. La première question qu'on peut regarder, et ce que je vais essayer de faire maintenant dans les quelques figures que je vais vous montrer, c'est de vous dire qu'en fait, la recherche actuellement, elle apporte effectivement un certain nombre de réponses, mais elle apporte aussi encore beaucoup de questionnements. Et donc, on est dans un domaine de la science où il faut faire à la fois avec des certitudes, des incertitudes, parce que d'abord, c'est un système extrêmement complexe qu'on est en train d'étudier, le système de la planète Terre, qui, avec les couplages entre les océans, l'atmosphère, la biosphère. C'est un système qui, en plus, est en évolution permanente, donc on n'est pas dans un état stable et il faut tenir compte de ces évolutions quand on l'étudie. Et puis, c'est un système qu'il faut essayer de modéliser pour pouvoir mieux le prédire. La première chose qu'on peut regarder, c'est est-ce que finalement la perturbation qui est apportée par les activités humaines est importante par rapport à celle par rapport à ce qui pouvait préexister dans les phénomènes naturels. Et quand on regarde, par exemple, un problème essentiel qui est comment le carbone se répartit dans les différents réservoirs de la planète, quand on étudie ce qu'on appelle le cycle du carbone, eh bien, on s'aperçoit que en fait, la planète Terre a constamment échangé du carbone sous différentes formes entre ses grands réservoirs, entre l'atmosphère, entre les océans, entre la forêt et les sols. Et ce carbone, eh bien, il est sous différentes formes. Dans l'atmosphère, il est essentiellement sous forme de gaz carbonique et ça représente à peu près 730 milliards de tonnes. Non, ça fait beaucoup, mais c'est réparti dans tout le volume de l'atmosphère. Le réservoir principal, c'est bien entendu les océans. On voit ici qu'on a 40 000 milliards de tonnes dans l'océan profond, à peu près 1 000 milliards de tonnes dans l'océan de surface, et puis une partie importante du carbone qui est également stockée dans la biosphère. Et puis tout ça s'échange, et en gros, les échanges sont extrêmement importants, puisqu'on échange à peu près 90 milliards de tonnes entre l'océan et l'atmosphère, et 60 milliards de tonnes entre les forêts, les sols, et également l'atmosphère. Les composantes qui sont apportées aujourd'hui par la perturbation liée aux activités humaines, c'est essentiellement le fait qu'on va prendre des combustibles fossiles qui étaient à l'intérieur de la planète Terre, du pétrole, du gaz, du charbon, et on le brûle et par conséquent, on fait passer le carbone de cet état solide ou liquide ou gazeux dans l'atmosphère sous la forme de gaz carbonique. Et on rajoute comme ça tous les ans à peu près 6 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère de la Terre. Une deuxième composante de la perturbation anthropique est liée, elle, au fait qu'on change aussi les modes de production agricole, on coupe des arbres, et on ne stocke pas forcément le carbone qui était dans les arbres, on les brûle, on accélère certains rythmes de culture, on change la nature des sols, et de cette façon-là, en gros, on envoie à peu près aussi 1,6 milliard de tonnes par an de carbone dans l'atmosphère. Donc vous voyez que la perturbation totale, elle est à peu près de l'ordre de 7 à 8 milliards de tonnes, c'est-à-dire qu'elle est faible par rapport aux échanges naturels. Il ne faut pas croire pour autant qu'elle n'est pas importante. Parce que, bien entendu, ce qui compte, c'est pas tellement, c'est bien sûr l'intensité de la perturbation, mais c'est aussi le fait que les échanges naturels, à l'échelle des temps auxquels on les regarde, c'est-à-dire de dizaines de milliers d'années, sont en principe équilibrés et que là, on apporte une perturbation qui va déséquilibrer le système. On en voit les effets sur l'atmosphère terrestre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on comprend aujourd'hui de la façon dont s'exerce ce déséquilibre. Vous retrouvez sous cette figure une vue un peu simplifiée dans laquelle maintenant on a mis essentiellement où va le carbone, du moins où on pense que va le carbone qui est lié aux activités humaines. Vous voyez qu'ici on retrouve ces 6,3 milliards de tonnes dues aux réserves fossiles, ce 1,5 milliard de tonnes dues à la végétation et au sol. Et la question c'est qu'en fait aujourd'hui on en retrouve à peu près que 3 milliards de tonnes dans l'atmosphère. Je dirais presque aujourd'hui... Heureusement pour nous, parce que si tout passait dans l'atmosphère, la concentration de gaz carbonique aurait augmenté beaucoup plus rapidement que ce qu'on a observé, ce qui signifie qu'une partie du carbone retourne dans d'autres réservoirs, et on sait qu'une partie retourne dans les océans, on sait qu'une partie retourne dans la végétation et dans les sols. C'est là d'ailleurs que commence une grande partie de nos problèmes quantitatifs, qui est la précision qu'on peut avoir précisément sur la répartition du carbone entre ces différents réservoirs. Et si ici je vous ai mis des chiffres sans barre d'erreur, ce qui n'est pas très sérieux pour quelqu'un qui s'intéresse justement à tous ces problèmes d'échange. Eh bien, il faut que vous sachiez que les barres d'erreur sont au minimum de l'ordre, aujourd'hui, à l'échelle globale, d'à peu près 50% en ce qui concerne effectivement ces flux. C'est-à-dire que on sait que le carbone repart dans l'océan, on sait qu'il repart dans la végétation, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle quantité. La deuxième chose que on mesure non plus pas bien, parce qu'on n'a pas le recul suffisant, c'est que, bien entendu, ce mouvement du carbone entre les réserves fossiles, l'atmosphère, les océans, la végétation et les sols, il se fait au rythme de réponse de ces différents systèmes. Et la végétation, vous voyez bien que c'est en fait quelque chose qui est marqué par des cycles de vie de l'ordre de quelques décennies, entre le moment où vous plantez un arbre, il pousse, il meurt, il pourrit, le carbone repart dans l'atmosphère, etc. Et par conséquent, à ces échanges et à cette perturbation ici des échanges, sont associés également des échelles de temps qui aujourd'hui nous posent problème dans la compréhension de la façon dont répond le système. Autrement dit, le système est à l'équilibre, on l'a perturbé, mais on n'observe pas immédiatement sa réponse. La réponse de la partie de la biosphère, c'est quelques décennies. La réponse des océans, c'est beaucoup plus long. Et on sait aujourd'hui qu'elle se chiffre plutôt en siècles ou en, entre 1 et 2 siècles. Et par conséquent, on est là face à un problème qui rend effectivement l'approche scientifique encore plus difficile. C'est qu'on n'est pas actuellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans une situation d'équilibre, on a perturbé le système, on le regarde évoluer, mais on ne sait pas vers quoi exactement il va, parce qu'on n'a pas non plus une appréhension précise de toutes les constantes de temps du système. Alors, je vous ai parlé du cycle du carbone, j'ai parlé du gaz carbonique, et dans le cas du gaz carbonique, on a vu qu'effectivement, les constantes de temps qui étaient mises en jeu étaient des constantes de temps extrêmement longues, quelques décennies pour la biosphère, quelques siècles pour les océans. C'est intéressant aussi de bien comprendre que le problème des gaz à effet de serre n'est pas un problème uniquement centré sur le gaz carbonique. Bien sûr, le gaz carbonique joue un rôle essentiel. Bien sûr, c'est probablement le facteur dominant, surtout quand on pense à ces échelles de temps qui sont mises en jeu. Mais il faut voir que d'autres activités humaines ont également un impact sur la composition de l'atmosphère. Et je voudrais vous dire quelques mots de 2 autres gaz à effet de serre, parce qu'ils sont intéressants du point de vue des couplages qu'ils entraînent et du type d'activité qu'ils mettent en jeu dans la compréhension de ces mécanismes. Le premier, c'est le méthane. Bon, je vous ai parlé un petit peu du méthane tout à l'heure. Je vous ai dit que le méthane, il y en avait dans l'atmosphère, mais vous avez sûrement remarqué qu'il y en avait déjà à peu près 200 fois moins que le gaz carbonique. Alors, je vous ai dit qu'il avait doublé, donc doubler le méthane, ça veut dire qu'en gros, on l'a augmenté à peu près de 0,8 ppm. Et donc, si on compare en termes de concentration ou en termes de masse l'augmentation du méthane, le gaz carbonique, lui, c'est une augmentation de 80 ppm. Le méthane, c'est 0,8. Vous voyez qu'il y a pratiquement un facteur 100 entre les deux. Et donc, vous pourriez me dire, ben, pourquoi se préoccuper du méthane, hein? Le gaz carbonique, c'est 100 fois plus. Donc, les phénomènes au pourcent, ce n'est pas pour l'instant le vrai problème. Alors, en fait, il faut faire attention, parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement la concentration du constituant, c'est le rôle qu'il joue dans l'effet de serre. Et là, les propriétés des différentes molécules qui sont liées à la façon dont elles absorbent le rayonnement sont également différentes. Et vous allez voir que ça va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si on regarde le méthane et si on prend la même masse de méthane que de gaz carbonique, eh bien on s'aperçoit que le méthane est à peu près entre 50 et 60 fois plus efficace que le gaz carbonique dans les mécanismes d'effet de serre. Et donc il y a un effet multiplicateur important qui fait que même avec une augmentation qui est à peu près 1/100 de celle du gaz carbonique en concentration, le méthane, par l'effet de ce facteur multiplicatif, revient finalement dans les mêmes ordres de grandeur, et on est obligé aujourd'hui, évidemment, de prendre en compte cet impact potentiel du méthane. Ça veut dire aussi que avoir du carbone sous forme de gaz carbonique ou sous forme de méthane, ce n'est pas tout à fait équivalent, et que quand on sera amené à prendre des mesures pour réguler le système, il faudra effectivement tenir compte de cet effet. Alors le méthane est intéressant parce que vous avez vu que dans le cas du gaz carbonique, en gros, on a dit la perturbation, c'est quelques milliards de tonnes par rapport à des échanges qui se chiffrent plutôt en dizaines de milliards ou en centaines de milliards de tonnes. Dans le cas du méthane, on est dans un problème totalement différent. On a, et ça se voit d'ailleurs sur sa concentration dans l'atmosphère, on a aujourd'hui plus que doublé les sources de méthane à la surface de la Terre. Les sources naturelles qui sont essentiellement dues à la fermentation anaérobique, c'est-à-dire en absence d'oxygène, dans les zones inondées, ici les marécages, vous voyez ce trait vert qui est très long, eh bien, ces sources représentaient à peu près 250 millions de tonnes par an de méthane émis vers l'atmosphère. On est aujourd'hui à pratiquement 600 millions de tonnes. Alors, dans le cas du méthane, on est dans un fonctionnement complètement différent du gaz carbonique, parce que bien entendu le méthane vient de la surface, il vient de ces processus biologiques, de ces processus chimiques à la surface, mais une fois qu'il est dans l'atmosphère, sa destruction, elle se fait dans l'atmosphère terrestre, essentiellement par des mécanismes d'oxydation. Et en gros, le méthane reste une dizaine d'années dans l'atmosphère avant d'être détruit. Donc on est cette fois sur un constituant où la perturbation liée aux activités humaines est beaucoup plus forte, plus d'un facteur 2. Mais en même temps, on est sur des échelles de temps différentes, puisque à la limite, vous pourriez vous dire, si j'arrêtais d'émettre du méthane, en 10 ans, ce serait nettoyé dans l'atmosphère. Et ça aussi, c'est un paramètre important quand on prend en compte ensuite les mesures de régulation éventuelles des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du méthane, et c'est pour ça que je l'ai mis un peu ici en exergue, c'est que tout à l'heure, pour le gaz carbonique, j'ai parlé beaucoup des combustibles fossiles, j'ai parlé un petit peu de l'impact de la déforestation. Le méthane, lui, met en cause pratiquement toutes les activités humaines, et en particulier les activités agricoles. Vous voyez ici qu'il y a une production, ce qui est en rouge correspond au méthane d'origine anthropique lié aux activités humaines aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une partie importante de méthane qui est liée, par exemple, à la fermentation dans les rivières ou à la fermentation dans l'estomac des ruminants, et ça représente effectivement des contributions très importantes aujourd'hui aux sources de méthane. De même que la combustion de la biomasse, qui est liée aux pratiques agricoles dans les pays tropicaux, a également un impact important sur le contenu en méthane dans l'atmosphère, comme l'auront les processus de fermentation dans les décharges. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier que le méthane, c'est le gaz naturel, donc il y a aussi un aspect, je dirais, industriel, production d'énergie, dans le cas du méthane. Mais ça vous montre que dans l'étude de ces phénomènes, on est obligé de faire très attention à quel gaz on traite, quel type de processus et quel type d'activité humaine. Et puis, le dernier dont je voudrais vous parler, c'est un peu par atavisme personnel, mais parce que je pense que c'est aussi intéressant du point de vue des couplages qu'il induit dans le problème, entre les différents problèmes d'environnement, c'est l'ozone. L'ozone est aussi un gaz à effet de serre. L'ozone a augmenté dans la basse atmosphère de la Terre du fait des activités, en particulier des phénomènes de pollution. Mais cette augmentation, si on la met en valeur relative par rapport au gaz carbonique, vous voyez qu'elle est très faible, puisque cette fois, on est passé pratiquement à plus d'un facteur 1000 en termes de concentration. Le problème, c'est que là encore, les propriétés des molécules jouent contre nous, et qu'à masse égale, l'ozone est 1000 fois plus actif que le gaz carbonique en termes de gaz à effet de serre, et que par conséquent, on ne peut pas passer sous silence le rôle de l'ozone en tant que gaz à effet de serre. Il s'agit bien entendu ici de l'ozone qui est produit à la surface de la Terre. C'est un problème qui est découplé, du moins théoriquement au départ, de celui de l'ozone stratosphérique. Alors pourquoi l'ozone est intéressant ? Parce que vous savez que l'ozone, ce n'est pas ce qu'on appelle un polluant primaire, ça ne sort pas de la cheminée d'une usine, ça ne sort pas de la végétation, ça ne sort pas d'un pot d'échappement. C'est en fait un gaz qui se constitue et qui se forme dans l'atmosphère terrestre sous l'action d'une chimie assez complexe qui met en jeu les oxydes d'azote, qui met en jeu les hydrocarbures et qui nécessite le rayonnement solaire, puisque pour faire de la chimie, il faut bien entendu avoir de l'énergie. Et en fait, quand on parle des précurseurs de l'ozone, c'est en général, bien sûr, les hydrocarbures, les oxydes d'azote, le méthane, le monoxyde de carbone. Quand on regarde effectivement quel est le rapport entre les émissions anthropiques, donc liées aux activités humaines, par rapport au total des émissions de ces précurseurs de l'ozone, eh bien, on s'aperçoit que pour au moins trois d'entre eux, et en particulier les oxydes d'azote, les sources anthropiques dominent complètement aujourd'hui le système. Vous voyez qu'on retrouve que les deux tiers du méthane qui sont dans l'atmosphère sont d'origine anthropique, les trois quarts des oxydes d'azote sont liés aussi aux activités humaines, à tout ce qui est phénomène de combustion qui, effectivement, détruira les molécules d'azote et produira la formation d'oxyde. Les seuls pour lesquels la source naturelle est encore dominante, ça pourra vous surprendre, ce sont les hydrocarbures, mais c'est lié au fait que les hydrocarbures sont émis en grande quantité par la végétation et que quand on raisonne à l'échelle globale, eh bien, c'est la source naturelle liée à la végétation qui domine. Il est évident que si vous vous trouvez dans la région de Lyon ou dans la région de Fos-sur-Bère, et encore, vous avez des chances de voir plutôt des hydrocarbures d'origine industrielle. Donc en fait, l'ozone a augmenté au niveau de la surface terrestre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet ozone, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il y reste quelques semaines, quelques mois. Et on voit sur cette carte qui vous montre l'augmentation de l'ozone entre 1850 et 1990. Il faut savoir que 1850, vous pourriez me dire, qu'est-ce que vous saviez de l'ozone à la surface de la Terre ? On savait des choses parce que l'ozone a été un constituant très populaire dans les années 1850 qui ont en fait suivi sa découverte en tant que gaz. Et beaucoup de gens se sont intéressés à la mesure de l'ozone, ce qui fait qu'on dispose à la fois en Europe, en Amérique du Sud, de données de mesure de l'ozone à la surface qui nous permettent aujourd'hui d'étalonner effectivement ces variations. Et on s'aperçoit qu'il y a un impact extrêmement important de l'ozone dans tout l'hémisphère nord. On retrouve ici les grandes régions de pollution sur l'Europe, sur les États-Unis, et également maintenant sur l'Asie du Sud-Est. Alors c'est intéressant parce que l'ozone en général, quand vous en entendez parler, c'est plutôt dans les phénomènes de pollution au niveau des agglomérations, des phénomènes de pointe de pollution. Mais vous voyez que c'est un problème qui se couple aussi à celui du changement climatique. Et là encore, dans la façon dont on essaiera de résoudre le problème, il sera évidemment important de considérer ces deux aspects. Une dernière chose que je voudrais souligner, je vous ai parlé jusqu'à présent de gaz dans l'atmosphère terrestre. En fait, le problème de la compréhension du mécanisme de l'effet de serre est beaucoup plus complexe que celui-là. Il met en jeu aussi des constituants qui sont des constituants naturels, en particulier les nuages. Il y a des nuages dans l'atmosphère de la Terre. Ces nuages absorbent le rayonnement, le renvoient. Et c'est probablement un des problèmes sur lesquels actuellement, du point de vue quantitatif et du point de vue de la compréhension des phénomènes, les scientifiques butent. C'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à quantifier complètement l'impact des nuages sur le rayonnement. Vous voyez que cet impact des nuages, que ce qu'essayent de vous montrer ces figures, c'est qu'elles entraînent une modulation extrêmement forte des rayonnements, aussi bien dans l'infrarouge que dans le visible. Et par conséquent, on a un peu de mal ici à démêler ce qui peut être les phénomènes dus aux différents types de nuages, dans la mesure où aujourd'hui, on n'a pas une étude à l'échelle globale suffisamment précise, effectivement, de ces nuages. Et puis, ils viennent se rajouter à ces nuages d'autres composants de l'atmosphère qu'on appelle les aérosols, qui sont en fait les particules en suspension dans l'atmosphère, dont une partie est d'origine naturelle et dont une autre partie est liée aux activités humaines, et qui, eux, sont aussi une composante des mécanismes de transfert de rayonnement dans l'atmosphère, et qui, en principe, vous voyez ici une carte qui essaye de vous montrer les particules en suspension au-dessus des continents. Ces présences de poussière, vous les voyez ici au-dessus des déserts, vous les voyez ici, c'est quand on se met à brûler la biomasse dans les régions équatoriales et tropicales, vous les voyez ici, c'est des aérosols de pollution sur l'Europe ou sur les États-Unis. Elles sont de différents types, mais enfin, elles sont en suspension dans l'atmosphère et elles jouent aussi un rôle important dans le transfert de rayonnement. Et là aussi, les incertitudes dans notre compréhension du système sont aujourd'hui importantes. Si bien que quand qu'on essaye de faire le bilan de ce qui s'est passé en gros au cours du XXe siècle, on a une certitude, c'est qu'il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre ont augmenté en moyenne la quantité d'énergie qui est reçue à la surface de la Terre d'environ 2,5 watts par mètre carré, c'est-à-dire une fraction qui est à peu près de l'ordre de 1,5% de la quantité d'énergie qui arrive normalement. Vous voyez, j'ai essayé ici de vous représenter le rôle des différents gaz. Vous voyez que, bien sûr, le gaz carbonique se taille la part du lion, mais vous voyez aussi que le méthane, que l'ozone, que d'autres gaz à effet de serre jouent un rôle important et que donc la problématique oblige à prendre en compte tous ces constituants. J'ai essayé de vous montrer aussi qu'on avait un certain nombre de problèmes scientifiques importants, la compréhension, la quantification des flux, le couplage entre la chimie et le climat, avec des mécanismes en particulier autour de l'ozone ou du méthane, le rôle des nuages et des aérosols. Si bien qu'on a aujourd'hui une difficulté ici, c'est que tant qu'on n'aura pas compris ces mécanismes-là, on aura bien entendu une difficulté à faire un lien entre les émissions futures et les concentrations qui pourront être observées dans l'atmosphère. Et c'est effectivement un des sujets importants de recherche aujourd'hui. La deuxième étape, et je vais passer assez brièvement dessus, parce qu'autrement, ça nous entraînerait dans une double conférence, c'est qu'une fois qu'on a apporté cette énergie additionnelle à la surface de la Terre par ce mécanisme de l'effet de serre, ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est comment elle va jouer sur le climat et comment elle va effectivement modifier la machine climatique de la Terre, dont le rôle essentiel est de redistribuer l'énergie qui arrive principalement du Soleil et qui donc arrive dans les régions tropicales, de la redistribuer en fonction de la latitude vers les régions polaires, essentiellement par les océans, un peu vers l'atmosphère, et qui met en route finalement ce qu'on appelle le cycle de l'eau, c'est-à-dire des mécanismes d'évaporation, de formation de nuages, de précipitation, toute la machine thermique de l'atmosphère. Alors ça, c'est un sujet d'étude évidemment très important. C'est un sujet d'étude difficile parce que pour le comprendre, on ne peut pas se contenter d'étudier seulement l'atmosphère. À nouveau, on retrouve la nécessité de coupler l'atmosphère avec les océans, de les coupler également avec la biosphère, de prendre en compte l'existence des glaces de mer, donc des compartiments qui ont des mécanismes, des processus qui sont différents, des compartiments qu'il faut étudier à pratiquement toutes les échelles d'espace. Quand on commence à parler des mouvements de l'air, on peut être à des échelles qui sont de l'ordre du millimètre ou du centimètre. Quand on parle des grands mouvements océaniques ou des grandes ondes planétaires dans l'atmosphère, on est à des échelles de plusieurs milliers de kilomètres. Il faut arriver à intégrer tout ça. Et puis, d'autre part, tout ce système a ses propres échelles de temps de variation qui peuvent être celles que vous connaissez. On commence par la variation diurne, on a les variations saisonnières et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de variations interannuelles, de variations séculaires, de variations aux échelles de temps de milliers d'années qu'il faut aussi qu'on arrive à démêler si on veut effectivement comprendre quelle est la part de modification du système qui est liée aux activités humaines dans la mesure où cette part reste pour l'instant relativement faible en intensité encore sur les mécanismes climatiques. Et par conséquent, ici, il y a tout le problème de la compréhension des processus. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure quand j'essaierai de vous expliciter les domaines de recherche qui sont pour nous les domaines de recherche importants et qui nécessitent aussi d'intégrer cette compréhension dans ce qu'on appelle des modélisations, c'est-à-dire des représentations finalement du fonctionnement du système, représentations qui nécessiteront de prendre en compte les processus dominants dans les différents compartiments, qui nécessiteront également de travailler sur la résolution des différents systèmes. Alors, je voudrais maintenant rentrer dans une deuxième partie de l'exposé, puisque j'ai épuisé à peu près la moitié de mon temps, c'est ça ? Un tout petit peu plus. Et donc, vous essayez de voir si on a déjà aujourd'hui des preuves que le changement climatique a commencé et d'essayer de voir ce qu'il faut faire ou ce qu'on peut faire pour essayer de le réguler, essayer de faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Alors, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, on s'aperçoit effectivement qu'il se passe des choses. Si je regarde la température moyenne de la Terre, de l'air, depuis 1000 ans, que j'essaye de reconstituer à la surface, que j'essaye de reconstituer à partir de différentes données, d'abord des données expérimentales qui sont directement les mesures de température au cours des 150 dernières années, et puis des archives qui peuvent être les archives glaciaires, qui peuvent être l'étude des cernes des arbres, qui peuvent être aussi des archives historiques, eh bien je m'aperçois que on a un signal ici à la fin du XXe siècle qui semble montrer qu'il y a effectivement un gradient de température important, en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'on a en gros une élévation de température qui est de l'ordre de 0,6 degrés sur cette période-là et qui sort assez nettement de la variabilité telle qu'on peut la reconstituer sur l'échelle de temps de 1000 ans à peu près. Vous voyez ici une baisse de température qui correspond en gros au petit âge glaciaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a un signal qui va dans l'autre sens et qui est un signal important. Ces données ressortent essentiellement de l'hémisphère nord. Si je regarde à l'échelle de la France et si je fais confiance à Météo France quant aux mesures et à l'analyse des températures, je m'aperçois que là aussi, il y a un changement. La température a augmenté plus fortement sur le sud de la France, environ 1 degré, plus faiblement sur le nord, de l'ordre de 0,5 degré. Donc là aussi, un changement. Bon, le problème, c'est effectivement, est-ce qu'il est lié aux activités humaines ? Est-ce qu'il est lié à l'effet de serre ? De la même façon, quand je regarde le niveau des mers sur à peu près 100 ans, la courbe moyenne me dit le niveau des mers, moyenne bien entendu, hein, le niveau moyen des mers s'est élevé. Il y a des endroits où ça monte, des endroits où ça descend, mais en moyenne, j'ai l'impression que ça a augmenté d'à peu près une dizaine de centimètres, ce qui ne m'étonne pas trop, parce que si la température a été effectivement variée de 0,6 degrés, comme chauffer la surface de la Terre, chauffer la surface des océans, ça entraîne une dilatation de ces océans et que ce facteur de dilatation, c'est à peu près 20 cm par degré, eh bien, je suis compatible avec l'augmentation de température que j'observe. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la preuve au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas établi de relation directe entre le mécanisme de l'effet de serre additionnel dû aux activités humaines et ce qu'on observe dans l'atmosphère. La conviction des scientifiques, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'homme influe sur le climat, elle est fondée sur un ensemble d'indices concordants qui tous sont compatibles avec ce qu'on attend de l'effet de serre. Mais notre compréhension actuelle des processus, des mécanismes, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans la partie précédente, n'est pas encore suffisante pour nous permettre effectivement de dire si la température du sud de la France a augmenté de 1 degré et le nord de 0,5 degré, c'est parce que, et je peux remonter comme ça jusqu'aux émissions de gaz à effet de serre telles qu'elles se sont produites sur la France ou ailleurs. Et donc cet ensemble d'indices, on a déjà parlé de la température, on a déjà parlé d'augmentation de température dans l'océan, de dilatation et d'élévation du niveau des mers. On commence à voir des variations dans les saisons de croissance, on commence à voir également des variations dans les régimes de précipitation, en particulier une augmentation aux moyennes latitudes, une diminution plutôt dans les subtropiques. On voit les glaciers, en particulier les grands glaciers continentaux sur les Alpes, sur les Himalayas, sur les Andes, effectivement diminuer. On voit aussi l'épaisseur et l'étendue des glaces de mer en Arctique diminuer, même si ce sont des domaines dans lesquels il il y a encore effectivement débat, il y a encore des problèmes à résoudre, en particulier du point de vue d'observation de ces affaires. Mais en tout cas, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui avec un ensemble d'indices qui tous sont effectivement compatibles avec ce qu'on attend de l'effet de serre, mais la relation de cause à effet, la preuve au sens scientifique du terme, elle n'est pas encore là. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas varié, ça vous étonnera peut-être, même si la perception du public est qu'elles ont varié. C'est par exemple le nombre de tempêtes qui sont observées sur l'Europe ou sur la France, où on s'aperçoit que quand on fait la statistique entre 1950 et 2000, on n'a pas aujourd'hui de signal détectable. Effectivement, il y a eu des grandes tempêtes en 1999, mais il y avait déjà eu, au début du siècle, des tempêtes de même amplitude. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cette augmentation dans l'amplitude et dans l'accélération qu'on sent ces quelques dernières années vont se poursuivre ou non. Pour l'instant, elles restent dans les échelles de temps de variabilité qu'on a observées. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le futur? Et c'est la question sur laquelle je voudrais terminer en posant effectivement le problème de l'énergie et en vous disant quelques mots sur les recherches scientifiques de ce domaine. Si on regarde ce qui va se passer, on a vraiment l'impression qu'on est aujourd'hui entré dans un siècle qui risque d'être un siècle de rupture. Autrement dit, le XXe siècle aura été le siècle de l'alerte. Vous voyez ici l'augmentation du gaz carbonique ou de l'ensemble des gaz à effet de serre ramenés en gaz carbonique au cours des 250 ou 300 dernières années, depuis le début des années 1700. Voilà les trajectoires sur lesquelles on est pour le XXIe siècle. Alors évidemment, c'est difficile, hein, parce que là, on est en train de prédire ce qui va se passer, et on a en fait deux incertitudes importantes. On a une incertitude qui est celle sur laquelle j'ai déjà beaucoup insisté, c'est-à-dire notre compréhension du système et la façon dont le carbone qu'on met dans l'atmosphère va se répartir entre les différents réservoirs. Mais on a aussi une deuxième incertitude qui est celle de nos comportements. Autrement dit, est-ce qu'on va continuer sur les tendances actuelles à brûler autant de combustibles fossiles? Est-ce qu'on va rentrer sur des trajectoires plus vertueuses? Et vous voyez que la différence qui est là, elle est là, elle est pratiquement d'un facteur 2. Et sur cette incertitude, il y en a à peu près la moitié qui est liée à notre compréhension du système, une autre moitié qui est liée aux incertitudes sur nos comportements. Mais en tout cas, ce qui semble bien, c'est qu'on ne fera pas l'économie d'un doublement de la concentration du gaz carbonique vers la fin du XXIe siècle par rapport à ce qu'elle était dans l'ère pré-industrielle. Et puis, si on est moins raisonnable, eh bien, on peut aller jusqu'à un quadruplement de ce gaz carbonique. Alors évidemment, tel qu'on peut la prévoir, la réponse du système est une réponse en termes d'augmentation de gaz carbonique, augmentation de l'effet de serre, augmentation de température. Et vous voyez qu'on retrouve sur la température la même fourchette ici. On prédit aujourd'hui une augmentation de température qui serait de l'ordre de 1,5 degré sur les trajectoires virtueuses, de 6 degrés sur les trajectoires non virtueuses, c'est-à-dire des changements importants. Je vous rappelle, je ne l'ai pas dit, mais 6 degrés, c'est l'écart de température qui sépare, dans l'autre sens, une période glaciaire de l'optimum climatique dans lequel on vit aujourd'hui. C'est à l'échelle de la température moyenne de l'atmosphère un changement évidemment très très important. Pour vous fixer les idées aussi, vous pourriez me dire 2 degrés, ce n'est pas beaucoup. Je vous signale que 2 degrés en moyenne saisonnière, par exemple sur la France, une moyenne de juillet-août de 2 degrés plus chaude, c'est la grande sécheresse de 76 et peut-être celle de cette année. Hein. C'est ça l'ordre de grandeur en termes de température moyenne, il faut évidemment bien l'avoir en tête. Alors, à partir de là, on rentre dans un domaine qui est peut-être encore plus, je dirais, hypothétique que celui que j'ai dit tout à l'heure, pas sur toutes les variables, mais quels sont les impacts qu'on peut prévoir du changement climatique et à quoi il va falloir peut-être s'adapter, réagir ou essayer de limiter. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont relativement simples. C'est l'élévation du niveau des océans. Ça, c'est quasi balistique avec la température. Et donc, si on dit 1,5 degré à 6 degrés, ça veut dire 30 cm à 1 mètre. Alors, vous me direz, c'est évidemment pas pareil. Mais déjà, une élévation du niveau des mers de 30 cm, c'est par exemple dans des régions comme les régions côtières ou dans des régions comme les régions des deltas des grands fleuves, ce sont des phénomènes qui sont des phénomènes extrêmement importants. Un mètre, bien sûr, ça veut dire que vous faites passer sous les océans beaucoup de barrières coralliennes, beaucoup d'îles dans le Pacifique et vous changez complètement la configuration des grands deltas. Le déplacement des isothermes, c'est simplement pour vous donner une idée, mais en gros, si on raisonne purement en termes de latitude, et c'est évidemment complètement faux quand on étudie les climats terrestres, mais changer de 1,5 à 5 degrés, c'est en gros déplacer les écosystèmes de 150 à 550 km du nord au sud. Alors évidemment, vous me direz, quand vous avez des grands pays comme la Russie ou comme les États-Unis, c'est pas trop grave. Quand vous avez des pays de plus petite dimension, ça veut dire que vous vous retrouvez avec d'autres climats que ceux que, effectivement, vous connaissez. Les deux prédictions suivantes sont, elles, fondées sur deux constatations simples. Si le climat est plus chaud, il y aura plus d'évaporation. S'il y a plus d'évaporation, il faut que l'eau retombe, il y aura plus de précipitation. Donc il est probable que dans un climat plus chaud, il y aura une accélération des cycles de précipitation, en particulier vers les régions de moyenne et de haute latitude, on pourra y revenir. Et puis, dans un climat plus chaud, il y aura plus d'énergie disponible dans l'atmosphère de la Terre. Et s'il y a plus d'énergie disponible, on peut penser qu'il y aura plus de phénomènes extrêmes, tempêtes, épisodes de pollution, cyclones, inondations. Ce sont des choses, effectivement, que la modélisation met en avant aujourd'hui. Enfin, il faut savoir que la réponse du système de l'environnement terrestre ne sera pas la même suivant les modifications, et en particulier qu'il y a des écosystèmes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, en particulier les écosystèmes de montagne ou les écosystèmes côtiers, qui peuvent effectivement être atteints beaucoup plus rapidement, en particulier les systèmes côtiers, du fait à la fois des modifications de température, mais des modifications également du niveau de la mer. Alors si on va un cran plus loin dans la prédiction et dans je dirais les hypothèses qu'on peut faire, bon, il est clair que il y aura des phénomènes comme des phénomènes d'augmentation de vagues de chaleur. On va augmenter le climat moyen, donc il y aura aussi plus de temps où on vivra dans des périodes sèches, dans des périodes de plus grande chaleur, avec tout ce que ça peut inclure. Avec évidemment, dans un climat plus chaud aussi, on peut le penser, dans certaines régions, des risques de recrudescence de maladies infectieuses, diminution des rendements agricoles. Et puis surtout, le dernier point, qui est probablement le point sur lequel il va falloir le plus réfléchir aujourd'hui, et je redirai quelques mots à la fin sur cette problématique, c'est que, bien entendu, la vulnérabilité des populations ou leur adaptation possible à un changement climatique, elle est fonction de leurs ressources naturelles, elle est fonction aussi de leurs ressources techniques et sociales. Et l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que les victimes d'un changement naturel, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales qui deviendront probablement plus sèches, risquent d'être celles qui sont déjà face à un état de pauvreté, de malnutrition et de mauvaise santé que vous connaissez. Alors, je voudrais en venir maintenant très rapidement à qu'est-ce qu'on peut faire. Excusez-moi, je vais dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on réfléchit et si on essaye de regarder ce que ça représente d'un point de vue quantitatif, cette problématique, on s'aperçoit que pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, je dis bien stabiliser, c'est-à-dire les maintenir à un niveau constant, pas rediminuer, il faut qu'on réduise de 40% à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle de toute la planète, les émissions. 40%, presque en gros un facteur 2. Ça, c'est pour stabiliser. Et en plus, plus on réfléchit pour savoir si on va faire quelque chose, plus le niveau auquel on va stabiliser va être haut, puisqu'on continue à accumuler du gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc quand on dit un facteur 2, et quand on dit un facteur 2 à l'échelle globale, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas simplement réduire de 10-20% les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi c'est un objectif difficile? Parce qu'on se place d'abord sur une tendance qui a été une tendance à l'augmentation de la demande énergétique, de la demande en, et maintenant je vais faire un lien un peu entre émissions de gaz à effet de serre et problèmes énergétiques, de la demande énergétique au cours du XXe siècle. Vous voyez que cette demande énergétique, elle a plus que doublé entre 1900 et 2000, évidemment en fonction de l'augmentation de la population, et la démographie est bien entendu un paramètre important dans ces affaires. Et puis vous voyez aussi que la plus grande part aujourd'hui de l'énergie est liée à l'utilisation précisément des combustibles fossiles, c'est-à-dire ceux qui émettent du gaz carbonique. C'est le gaz, c'est le pétrole, c'est le charbon, et ça représente pratiquement 70% de l'énergie, des process de production d'énergie aujourd'hui. Vous voyez en particulier la part importante qui est liée ici au transport et à l'utilisation du pétrole. Les énergies renouvelables, la biomasse, l'hydraulique, et puis les énergies comme le nucléaire ne représentent encore qu'une partie relativement faible à l'échelle mondiale. Donc on est sur une tendance forte à l'augmentation. On est sur une utilisation massive des combustibles fossiles qui ne sont pas chers en termes énergétiques. Et puis, on a un troisième problème important sur les bras, c'est que, bien entendu, si on représentait le monde aujourd'hui en pondérant la surface des pays en fonction de leur consommation énergétique, on aurait une vision qui est celle qui est représentée ici. Alors, si vous avez oublié la vision normale, elle est là. Donc, vous voyez qu'effectivement, pratiquement toute la consommation énergétique est liée à l'utilisation de l'énergie dans les pays du Nord, les États-Unis qui à eux seuls consomment 30%, les pays d'Europe, les pays en transition ici, et vous voyez que pour l'instant, la part des pays émergents, en particulier la Chine ici et l'Inde et les pays d'Amérique latine, reste faible aujourd'hui et que, bien entendu, dans la nouvelle répartition de l'énergie et dans la nouvelle répartition des émissions, il faudra avoir à l'esprit ce principe d'équité qui va être nécessaire. Et évidemment, le discours actuel des pays du Sud est de dire c'est pas parce que vous, depuis 100 ans, vous avez tout consommé que nous, aujourd'hui, on est obligé d'arrêter notre consommation. Et donc, on a là un des problèmes classiques qui fait que ce problème du changement climatique par le biais, effectivement, des ressources énergétiques pose tout le problème du développement nord-sud et pose tout le problème des pays en émergence. Alors, c'est un problème qui est d'autant plus compliqué, j'en ai dit un mot tout à l'heure, qu'on a affaire aussi à des constantes de temps qui sont longues et qu'on ne peut pas passer notre temps à essayer de réfléchir pour savoir exactement ce qu'on va faire et comment on va réussir à éventuellement juguler le système. Vous voyez ici, j'ai essayé de représenter sur une échelle de temps qui va de 100 à 1000 ans la perturbation qu'on a appliquée aujourd'hui au système. Et on pourrait se dire, si on est raisonnable, on va essayer de diminuer et de ramener les émissions à un niveau beaucoup plus faible. Bon, d'abord, on y sera peut-être forcé à un moment donné parce qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz. Mais en gros, on se dit, on applique une perturbation pendant à peu près 200 ans. Le problème, c'est que le système de l'environnement terrestre, lui, il va mettre beaucoup plus de temps à répondre. Et par exemple, la stabilisation du gaz carbonique, ça va prendre 1 à 2 siècles, justement parce qu'il y a toute cette boucle liée aux océans, liée à la végétation qu'il faut rééquilibrer. La stabilisation de la température, c'est 3 à 4 siècles à partir d'une perturbation comme ça sur 100 ans, parce qu'il y a toute l'inertie des océans et qu'il faut à nouveau recoupler tout le système. L'élévation du niveau des mers, à nouveau on retrouve ici l'inertie thermique, ça peut continuer pendant 5 ou 6 siècles. Et puis si on se met à faire fondre les glaces continentales, eh bien ça peut prendre, on n'en est pas encore là, mais ça peut prendre effectivement plusieurs millénaires. Donc il faut avoir à l'esprit cette idée que ce n'est pas un problème qu'on va traiter et qui va durer 20 ans, c'est un problème qui, effectivement, va impacter fortement les générations futures. Alors, comment on essaye d'y répondre ? Je passerai rapidement du point de vue socio-économique, j'essaierai de vous donner quelques idées sur les pistes de recherche. Vous avez bien entendu entendu parler du protocole de Kyoto, dont l'idée était de se dire, on va essayer de prendre des régulations à l'échelle mondiale pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et à Kyoto, en 1997, on s'est fixé un objectif qui était de dire on va essayer de diminuer à l'échelle mondiale de 5% les émissions de gaz à effet de serre en 2010 par rapport au niveau de 1990. Alors on entend beaucoup, et je voudrais simplement attirer votre attention là-dessus, on entend beaucoup aujourd'hui un discours qui dit finalement, quand vous nous dites qu'il faut diminuer de 50% et que vous fixez comme premier objectif diminuer de 5%, franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que c'est ça le problème ? Alors je crois que par rapport à ça, il faut faire attention, et ça nous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est pas sur un système stabilisé où les émissions de gaz carbonique étaient constantes. On était dans un système, que vous voyez ici, où en fait les émissions de gaz carbonique étaient en augmentation permanente, étaient en augmentation forte, de l'ordre de quelques pourcents par an. Donc ça veut dire que la cible de Kyoto par rapport à cette tendance, d'accord, elle oblige finalement en 2010, si on avait supposé que la tendance se constituait, à des diminutions qui sont plutôt de l'ordre de 25% que de 5%. Avec en plus le fait que ce qui est toujours difficile, c'est d'inverser une tendance. Après, on peut se dire, on a commencé à trouver des solutions, mais le premier pas est toujours le pas important. Et ça, on le constate en fait sur ce graphique ici qui vous donne par pays, on va en regarder trois essentiellement, l'Union européenne ici, les États-Unis qui sont ici, qui vous donne en fait les objectifs qui étaient fixés par Kyoto. Vous les voyez ici, l'Union européenne vertueuse s'est dit on va faire moins 8, les États-Unis ont dit on va faire à peu près moins 7 si je ne m'abuse. L'Union européenne a fait des efforts. Bien sûr, elle n'a pas atteint Kyoto, mais elle a à peu près stabilisé ses émissions. Les États-Unis, pour des raisons qui leur appartiennent, n'ont effectivement pas joué la carte Kyoto. Vous voyez que leurs émissions ont augmenté aujourd'hui de pratiquement 18%, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur la même tendance. Alors évidemment, le seul pays qui a réussi à juguler ses émissions et à faire beaucoup mieux que Kyoto, c'est la Russie. Enfin, le système qui a été appliqué n'est peut-être pas directement généralisable à l'ensemble des pays. Ça consiste à effectivement bloquer l'économie pendant un moment. Et puis ensuite, essayer de récupérer. Alors, je dois vous dire que cette diminution-là, si on la donne en termes de permis d'émission, elle excite effectivement un certain nombre de convoitises. Alors, je vais conclure là-dessus en quelques transparents. Vous voyez que ce problème des changements globaux, et je pense que ça rejoint à ce moment-là le thème de l'ensemble des conférences qui seront données dans ce cycle, il pose un certain nombre d'enjeux politiques, il pose un certain nombre d'enjeux socio-économiques par le couplage qu'il a avec les mécanismes d'énergie, les mécanismes de développement. Et en fait, il pose deux problèmes. Il pose premièrement le problème de développement durable de la planète dans son acceptation complète, c'est-à-dire développement durable qui signifie maintenir un développement économique dans un système acceptable socialement et qui préserve l'environnement. Et c'est ça, effectivement, un des défis auxquels on a à faire face aujourd'hui, la notion de durable impliquant notre responsabilité vers les générations futures. Et puis, le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la maîtrise de l'énergie. en sachant que cette maîtrise de l'énergie, elle va devoir être fondée d'une part sur son accessibilité, et là je pense aux pays en développement. Elle va être aussi devoir être fondée sur la disponibilité. Et là, j'ai dit tout à l'heure que les ressources en combustible fossile, on peut se battre pour savoir si le pic du pétrole, c'est dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Mais quand on raisonne à l'échelle séculaire, de toute façon, on sait que l'utilisation des combustibles fossiles, elle sera nécessairement limitée dans le temps. Et puis, c'est le problème d'acceptabilité, c'est-à-dire le problème des risques et des nuisances. Alors, si on raisonne maintenant en termes d'enjeux scientifiques, on voit bien qu'il y a deux grandes directions de recherche. Il y a premièrement les recherches sur le fonctionnement du système de l'environnement, autrement dit, comprendre aujourd'hui les climats de la Terre, prévoir les impacts des changements, et vous avez vu qu'on avait encore beaucoup d'incertitudes dans ce domaine, et puis agir potentiellement sur les causes, parce que quand on agit sur les causes et qu'on propose différents scénarios, il faut en même temps les coupler avec notre compréhension des impacts possibles. Vous avez vu que c'est un jeu en fait difficile où il faut jouer sur certains gaz à effet de serre, pas sur d'autres, où il faut jouer sur certaines régions, pas sur d'autres. Et donc, on a besoin aussi de coupler finalement ces scénarios économiques avec leur impact potentiel sur le changement climatique. Et puis, un deuxième enjeu qui est l'enjeu de l'évolution technologique, de l'évolution économique, de l'évolution sociale. Et encore une fois, ce problème des changements climatiques est un problème qui ne peut pas être résolu uniquement par les scientifiques qui s'intéressent au climat. Eux, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils font un constat, mais ils n'ont pas les moyens de réparer le climat. Réparer le climat de la Terre et se dire qu'en modifiant tel système, en modifiant le fonctionnement de tel compartiment, on va arriver à juguler l'effet de serre. C'est un peu un jeu d'apprenti sorcier, dans la mesure où on n'a déjà pas compris comment il fonctionnait. Donc, si on essaye de le corriger, on risque de faire des dégâts dans un sens ou dans l'autre, et c'est une approche qui probablement n'est pas valable à l'échelle globale. La bonne approche, c'est une approche qui va effectivement consister à prendre en compte les dimensions économiques, les dimensions sociales de ces problèmes d'environnement, et à essayer de mieux comprendre les problèmes de démographie, de maîtrise de l'énergie et les problèmes de développement. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps ou si je suis 3-4 minutes. Alors, juste deux choses. Je vais sauter deux ou trois transparents. La recherche sur les milieux naturels, bon, ce sur quoi je voudrais insister, bien sûr, vous l'avez compris, et si je me mets à décliner ce que j'ai dit là, vous allez retrouver les mots que je viens de prononcer. Comprendre les processus, les intégrer dans le système global de l'environnement terrestre, modéliser, étudier les impacts, et puis prendre en compte tous les aspects économiques, juridiques, de risque d'adaptation sociale. Donc, par essence, c'est une recherche qui est nécessairement une recherche interdisciplinaire, c'est une recherche qui est nécessairement une recherche internationale. Et ça suppose que l'on trouve effectivement les bons mécanismes pour mettre en place cette interdisciplinarité. Ça peut vous paraître évident de dire je mets des économistes avec des spécialistes de l'atmosphère et puis ça va rouler tout seul. C'est pas si simple que ça. Les sciences, elles ont leur mode de production de connaissances, elles ont leur langage, et donc c'est des choses qui doivent nécessairement s'inscrire dans le temps. Mais c'est des choses importantes et c'est des choses qui sont aussi, à mon avis, des choses motivantes pour les scientifiques qui voudraient s'intéresser à ces différents domaines. Ce que je veux dire sur ces sciences du climat, et je voudrais insister un peu là-dessus, même si à la limite ça peut être contre-productif pour mon domaine, c'est qu'on s'est aperçu aussi depuis 30 ou 40 ans que même si la science avance, même si les connaissances avancent, et on comprend infiniment mieux aujourd'hui le système de l'environnement terrestre qu'on ne le comprenait à 20 ans, ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on pense qu'à un moment donné, on va pouvoir vous dire « ça y est, on a compris, on a tout compris, on va vous dire exactement où on va et maintenant vous prenez les décisions ». La décision, elle sera toujours prise dans l'incertitude et la courbe qui est là essaye de vous le montrer. C'est un peu ésotérique, mais ce que vous avez ici, c'est les changements de température prédits par les modèles. Les modèles, c'est notre état actuel des connaissances du système. Et ça, c'est les changements de précipitation. Les points bleus, c'était les modèles qu'on avait au début des années 90. Donc, vous voyez, c'était assez dispersé, 1 degré à 5 degrés, et puis les précipitations. Les points rouges, c'est les modèles dont on dispose en 2000. Alors, c'est contre-productif, parce que quand je montre ça, on me dit, franchement, c'était vraiment pas la peine de vous donner de l'argent, parce qu'au bout du compte, le résultat est le même 10 ans après. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on a compris. On est bien meilleur dans certains aspects, dans la régionalisation, mais vous voyez qu'on n'est pas encore au bout et qu'il y a probablement encore des processus qu'on ne prend pas suffisamment en compte dans nos modèles. Le deuxième volet des recherches, qui pour nous est aussi important et sur lequel on lance à nouveau des programmes, ce sont les recherches dans le domaine de l'énergie, sur les différents aspects que j'ai soulignés, sur les aspects des ressources, sur l'aspect de la conversion d'énergie, parce que je vous rappelle que l'énergie, ça ne se crée pas, ça s'échange, ça se modifie, ça passe d'une forme d'énergie à une autre, sur ce qu'on appelle les vecteurs énergétiques, et ça, c'est tout le problème lié à par exemple l'hydrogène, les piles à combustible. Sur les usages, parce qu'on est de plus en plus persuadé aujourd'hui qu'une utilisation rationnelle de l'énergie, elle va devoir être déterminée non pas par la capacité de production, mais par l'usage qu'on en fait. Et qu'à tel type d'énergie répondra tel usage, ou plutôt qu'à tel usage répondra tel type d'énergie, et que c'est de cette façon-là qu'il faudra arriver effectivement à mettre en place les différentes formes d'énergie dont on aura besoin, et puis bien sûr un contexte socio-économique. Si bien que là, on retrouve à nouveau une recherche interdisciplinaire, mais une recherche interdisciplinaire pour laquelle il faut s'articuler très rapidement sur les applications potentielles et avoir toujours à l'esprit que le but visé, c'est de passer effectivement de ce stade de la recherche à celui de l'application, à celui de l'innovation. Et ça, ça va concerner tous les domaines. Le premier qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la première chose à faire, c'est l'économie d'énergie. Et là, il y a effectivement des recherches importantes à faire sur l'efficacité des process énergétiques, c'est-à-dire ce que j'ai mis dans le second, mais aussi sur l'utilisation intelligente de l'énergie, sur les nouveaux types de bâtiments. Et on peut, de ce côté-là, faire beaucoup de choses. Il y a déjà aujourd'hui des bâtiments qui sont positifs du point de vue de l'énergie. C'est-à-dire que des bâtiments qui sont construits en matériaux de telle façon qu'à la limite, ils consomment moins d'énergie qu'ils ne peuvent en remettre dans le système. Si vous voulez, je pourrais vous donner quelques indications là-dessus, bien que ce ne soit pas tout à fait mon domaine. Développer, bien sûr, les énergies renouvelables non émettrices de gaz carbonique. Réfléchir à un problème qui est probablement un problème important, qui est comment on pourrait capturer le gaz carbonique quand on produit de l'énergie et éventuellement le séquestrer, ce qui à nouveau retombe sur des problèmes très pluridisciplinaires, techniques de capture, la géologie, où est-ce qu'on va le mettre. Puis l'acceptabilité sociale, parce que le jour où on va arriver à côté de chez vous pour vous dire vous appelez pas, on est juste en train de remettre du gaz carbonique à l'intérieur des nappes phréatiques, ça va quand même poser, à mon avis, quelques problèmes et quelques discussions. Et puis le dernier volet, c'est que, sans a priori idéologique, il faut effectivement regarder toutes les formes d'énergie possibles, en particulier l'énergie nucléaire, d'abord parce qu'on a des déchets à traiter, et puis parce qu'il faut peut-être réfléchir à des nouvelles générations, à la fois de réacteurs ou à des programmes plus ambitieux, comme ceux, effectivement, qui sont liés à la fusion thermonucléaire. Voilà, je vais m'arrêter là et je terminerai sur une phrase d'Eliard qui vous dit « La Terre est bleue comme une orange ». Ce qu'il faut espérer, c'est que pour une fois, le poète n'aura pas raison, parce que si la Terre était bleue comme une orange, elle ressemblerait fortement aux deux planètes qui nous entourent, qui sont Vénus et Mars, et sur lesquelles vous savez bien entendu que la vie, si elle a existé, ne s'est en tout pas maintenue sous les formes que nous connaissons. Voilà, merci.
Si on préjuge ce qui reste discutable, que le discours scientifique sur ces sujets globaux est plus cohérent que d'autres, avec des conséquences et des prévisions qui sont graves, est-ce qu'il doit devenir normatif, voire impératif? Mais dans la mesure où aucun gouvernement n'est scientifique et où ni les sciences ni les politiques ne sont démocratiques, avez-vous l'impression d'être plus efficace que l'appétit de Delphes?
Alors, je ne vais pas porter un jugement historique de ce point de vue-là. Je pense que le problème que vous soulignez est effectivement un problème difficile. C'est pour ça que j'ai dit que les scientifiques, je crois, ont joué leur rôle. Ils ont joué leur rôle en donnant l'alerte. C'est ce qui s'est passé dans les 20 ou 30 dernières années. Ils ont joué leur rôle aussi, je crois, sérieusement, en essayant de travailler de façon cohérente. Vous avez dit, est-ce qu'on peut les croire, est-ce qu'on ne peut pas les croire? Ils ont essayé de travailler en essayant de dégager des consensus, parce qu'il faut bien comprendre que la science, elle est faite de certitudes, elle est faite d'incertitudes. C'est même son moteur. Quand je suis scientifique, si je me mets à être certain de tout, franchement, ça ne vaut plus le coup. Il faut que je doute, il faut que je sois en rupture. Et puis, en même temps, d'un autre côté, il faut que j'essaye de présenter aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, parce que c'est eux qui ont les moyens de le faire, les éléments de leurs décisions. Et par conséquent, je crois qu'il y a des éléments d'optimisme. Il y a un premier élément d'optimisme qui est qu'il y a au moins un problème d'environnement global qu'on a résolu. Le problème de l'atteinte, de la destruction de la couche d'ozone par les composés chlorés, on a réussi à faire passer un message fort, on a réussi effectivement à faire en sorte que les mesures soient prises. Vous me direz que c'était un problème qui était beaucoup plus simple, et en plus on a réussi à le faire le jour où on a été face à une catastrophe, qui heureusement n'a pas été une catastrophe du point de vue de l'être humain, mais qui a été en fait une rupture brutale dans le fonctionnement du système qui a été le trou d'ozone. Mais enfin, on a été capable de prendre des décisions à l'échelle mondiale et de changer complètement une stratégie de production de certains produits sans que pour autant vous vous aperceviez vraiment de la difficulté que ça a pu poser, même si ça a coûté économiquement. Moi, je suis frappé du fait qu'aujourd'hui, ce problème du changement climatique, il est quand même assez haut sur l'agenda politique. Quand j'entends des politiques parler de développement durable, quand j'entends effectivement ce discours et ces problèmes climatiques revenir pratiquement constamment. Aujourd'hui, il n'y a pas un mois sans qu'il y ait une commission du Sénat, sans qu'il y ait une discussion, sans qu'il y ait quelque chose. Je me souviens qu'il y a 10 ans, c'était en gros tous les ans, quand il y avait la conférence de Kyoto, qu'on en parlait. Et même des pays, vous pourriez me dire, oui, mais alors, par exemple, tant que les États-Unis ne feront rien, à quoi ça sert? Même des pays comme les États-Unis, qui, pour des raisons politiques, disent, nous, Kyoto, ça ne nous intéresse pas parce que c'est une rupture par rapport à notre modèle économique et que le coût économique est trop fort. Même ces pays-là sont aujourd'hui en train d'investir massivement, et peut-être même plus massivement qu'on ne le fait nous, dans ces domaines, sur des axes de recherche qui sont des axes de recherche technologiques du type capture du CO2, utilisation de l'hydrogène et autres modes. Et ils sont dans leur schéma habituel, c'est-à-dire que le jour où ils auront trouvé les solutions, ils viendront les proposer à tout le monde en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je pense que effectivement, je crois qu'il y a une prise de conscience. Le problème, c'est que d'une certaine façon, on est dans une course de vitesse et que si on attend trop et si on attend d'avoir des preuves irréfutables, à ce moment-là, on sera un peu dans le mur. Mais je suis pas si pessimiste que ça, tout en pensant qu'on ne fera pas l'économie d'une adaptation.
Vous avez beaucoup parlé donc des coûts et des problèmes que peuvent poser le réchauffement climatique, mais souvent les économistes appuient aussi sur un autre type de coûts qui sont les coûts que peuvent poser, engendrer les mesures pour résoudre ce problème et limiter l'émission de CO2, ce genre de choses. Et une question que posent les économistes, c'est finalement, est-ce que le risque, c'est pas de payer plus cher en se braquant sur l'émission, alors qu'on peut accepter un certain coût, et donc ça coûterait moins cher de limiter les dégâts, quoi, que de vouloir trop courber. Je pourrais donner un exemple en disant, l'idée, c'est est-ce que on pourrait payer avec la richesse qu'on engendre l'augmentation du CO2, alors que si on veut arrêter cette augmentation, peut-être qu'il faudra qu'on finisse tous par rouler à vélo. C'est peut-être pas la solution que tous les individus dans le monde souhaitent, quoi. Donc, dans quelle mesure vous avez des réponses à cette critique des économistes qui disent qu'en quelque sorte, souvent, on se braque sur cette question et on voit que les coûts d'un côté et pas les coûts qu'engendrent les solutions proposées.
Alors d'abord, je suis pas économiste, donc. Ceci dit, je pense que le problème se pose. On peut poser le problème, effectivement, comme vous le posez, mais je pense, et c'est là la difficulté. Ce que j'ai bien dit, c'est que de toute façon, on est dans un contexte d'incertitude. Donc, si on commence à rentrer dans un jeu qui est de se dire, on va faire une analyse coût-bénéfice. Combien ça va me coûter le risque du changement climatique? Ah oui, mais alors, quel risque? Le niveau de la mer, c'est quoi? C'est 50 cm ou c'est 1 mètre? Comment je fais? D'accord. Et puis, d'un autre côté, je me fonde sur un progrès technologique. Comment je le prends en compte? Comment je joue sur l'incitation éventuelle pour réduire des émissions, etc. Donc, on est dans un jeu qui ressort pas forcément, je crois, d'après ce que j'ai compris des discussions que j'ai pu avoir avec les économistes et de ce que j'ai pu, moi, faire sur le cas de l'ozone, par exemple. Je pense qu'on n'est pas dans un jeu forcément très simple, parce qu'il s'agit aussi, d'une part, d'internaliser les coûts du changement climatique, ce qui est déjà quelque chose de très difficile, et puis d'autre part, de les prendre en compte. Bien entendu, il ne s'agit pas de les prendre en compte sur les 10 ans qui viennent, il s'agit d'intégrer tout ça sur 50 ou sur 100 ans. Donc vous voyez la difficulté du problème. Donc moi, je pense que l'approche qui consiste à dire, à la limite, ça va exister, il va y avoir un certain... Effectivement, ça va coûter d'essayer de l'éviter, ça va coûter de s'adapter, et puis on va faire aussi des bénéfices parce qu'on n'ira pas forcément dans le mur. Je crois que c'est cette approche-là qu'il faut essayer de faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait absolument lier études économiques, scénarios climatiques, et essayer de regarder effectivement vers quoi on va, ce qu'on gagne, et essayer de le traduire en coût économique. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Un des problèmes intéressants auxquels on fait face, c'est le couplage entre les modèles climatiques, les modèles de scénarios d'énergie et les modèles de coûts économiques, avec tout ce que vous savez faire au niveau macroéconomique, plus les modèles, en plus gestion de l'incertitude. Donc c'est assez intéressant, effectivement, mais c'est encore du domaine de la recherche. Ceci dit... Quand on commence à regarder les solutions qui se dégagent de ça, on s'aperçoit que c'est quand même des solutions dans lesquelles on se préserve à chaque instant les possibilités d'inflexion. Autrement dit, on a intérêt à commencer à se mettre sur des trajectoires vertueuses, à regarder ce que ça fait, à regarder comment éventuellement on les infléchit, on relâche et ainsi de suite. C'est un peu de cette façon-là qu'on raisonne. Je pense qu'un des problèmes principaux auxquels on fait face, et on l'a vu d'ailleurs dans toute la discussion sur le débat de l'énergie, c'est celui de l'internalisation des coûts, effectivement, liés au changement climatique, de combien ça coûtera, y compris des problèmes de transfert technologique vers les pays en développement, parce que c'est pas parce qu'on va résoudre le problème chez nous qu'il ne faut pas aussi le résoudre chez eux en même temps. Donc c'est assez compliqué. Je ne réponds pas à votre question, mais je vous dis clairement qu'on est effectivement dans un domaine qui est un domaine où le couplage recherche économique, recherche climatique est effectivement important.
Oui, sur la gravité du danger. Et vous nous avez énuméré les catastrophes prévisibles. J'ai compté trois transparents des choses terribles qui allaient arriver, plus de paludisme.
Pas terrible, je ne vous ai pas dit que c'était terrible. Hein.
Est-ce que vous pourriez... Je n'ai pas vu une seule ligne dans l'effet positif qui pouvait résulter de l'augmentation de la température. Je pense à, je sais pas, plus de paludisme, moins de grippe. Ou tout le monde sera content à Lille d'avoir la température de la Côte d'Azur.
Oui. Ben ça, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Déplacement des isothermes de 150 à 500 km. Voilà. D'accord. Donc, quoi qu'à Lille, vous n'aurez pas tout à fait la Côte d'Azur parce qu'il va pleuvoir plus aussi. Donc, va falloir. Bon.
Voilà. Hein, c'est... Ma question, c'est est-ce qu'il n'y aura pas une compensation, une adaptation et une réduction donc des dangers par relative peut-être, mais disons que ce sera moins dramatique.
Il y aura clairement des gagnants et des perdants, hein, ça c'est clair. Il y a des régions qui deviendront effectivement avec des températures plus modérées, des capacités de production plus grandes. Bon, si je raisonne bêtement, je peux me dire qu'effectivement, la Sibérie peut devenir, je sais pas, un grenier à blé. Bon, ce qui supposera d'abord qu'on aura évacué toute l'eau et donc le méthane, et donc ça peut reposer d'autres problèmes. Hein. On peut imaginer que tout le Midwest américain se retrouve au Canada. Donc à ce moment-là, c'est bénéfique, mais en même temps, ça pose d'autres problèmes. Hein. Ça pose d'autres problèmes parce que derrière ces boucles-là, vous avez des boucles économiques, vous avez un certain nombre de problèmes. Et il y a des problèmes que je n'ai pas soulignés et qui, à mon avis, sont si vous voulez, je crois que la plus grande fragilité de notre système, elle est en fait dans le fait que les populations du Nord sont quand même des populations assez fragiles par rapport à ces changements. Il n'y a qu'à voir l'effet d'une grande tempête hein, sur la France. D'abord, on n'a pas très bien la notion du risque. Et puis en plus, on a un système qui est extrêmement fragile du point de vue de l'organisation sociale. Il va y avoir tout ce qui va être induit par la pression démographique. Hein, si vous pensez que le sud de la Méditerranée revient très sec, la tendance, ça va aller de bouger vers le nord. Hein, et donc, il va y avoir tous ces mouvements-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des gagnants, même s'il y a des perdants, il faut quand même essayer de raisonner à une échelle plus globale et pas de se dire, moi, je vais être gagnant, donc les perdants, c'est pas moi, parce que les perdants, ils risquent d'arriver chez vous si c'est vous qui avez gagné. Et donc, le problème des tensions politiques, des tensions économiques et des tensions sociales, il va être important. Aujourd'hui, on fait la guerre pour l'eau. Hein. Et les ressources en eau, la répartition des ressources en eau liées au changement climatique, ça va être un grand problème. Hein. Et ce n'est pas seulement le régime des précipitations, c'est aussi les histoires, c'est les glaciers, par exemple. Hein. Imaginez que les glaciers himalayens ou que les glaciers andins se mettent à fondre. Bon, indépendamment du fait que ça fait plus d'eau qui passe, ça fait aussi moins de réserves d'eau, ça change complètement les cycles hydrologiques, ça change complètement tout ça. Donc ça peut être bénéfique à certains endroits, je suis d'accord avec vous, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre, mais je pense qu'on ne peut pas raisonner non globalement sur cette affaire.
Oui, justement, je voulais poser la question, vous n'avez pas abordé quelle incidence ça peut avoir avec la désertification en Afrique, et aussi, puisque le continent africain aussi, c'est lui qui produit le pétrole et on se soustrait là-dessus. Il y a des mouvements et vous avez dit qu'il y avait des gaz aussi sous terre qui ont une influence. Est-ce que vous pouvez éclaircir un tout petit peu à ce sujet-là ? Merci.
Je ne sais pas. Sur les problèmes de désertification, bon, il y a des grandes. Il y a effectivement eu des évolutions. Il y a des sécheresses plus fortes dans le Sahel, etc. Le lien direct avec. Le changement climatique n'est absolument pas établi aujourd'hui. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans le changement de régime de précipitation qu'on attend, il y a effectivement une plus grande sécheresse dans les régions subtropicales et tropicales. Donc on attend effectivement cette manifestation avec par contre une augmentation des précipitations à plus haute latitude. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire en disant que probablement toutes ces populations de la ceinture tropicale qui sont des populations qui sont déjà dans des états difficile hein, du point de vue du développement, risque d'être encore plus victime de ce problème de changement climatique, ce qui nous renvoie à la question précédente. Je ne pense pas qu'on puisse se désintéresser de ça et je pense qu'il y a un effort important à faire de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est d'essayer de trouver des solutions alternatives du point de vue de l'irrigation, du point de vue ça, moi je ne sais pas bien, mais
bien.
Le problème effectivement de la relation nord-sud dans cette affaire est posé. Il n'est pas posé seulement au niveau, je pense, de qui est responsable et qui sera responsable des émissions. Il est posé aussi au niveau de comment on aide au développement en prenant en compte l'impact potentiel du changement climatique.
Bien, cher Méji, merci.